de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Le Premier ministre Khan met en garde contre la guerre civile en Afghanistan. Depuis octobre, les enfants indiens peuvent se faire vacciner contre la COVID-19. Le président iranien s'adresse à l'ONU et appelle à des sanctions pour la révocation nucléaire. Joe Biden parle de l'indépendance palestinienne à l'Assemblée générale de l'ONU. Duterte s'engage à être responsable des opérations anti-drogue. Le président tchèque Miloš Zeman revient de l'hôpital. BPOL-BF prépare des logements standards CHSE pour soutenir le G20. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le Premier ministre Khan met en garde contre la guerre civile en Afghanistan. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan met en garde contre le risque de guerre civile en Afghanistan si les talibans ne peuvent former un gouvernement inclusif. En outre, le Pakistan est également préoccupé par une éventuelle crise humanitaire et des réfugiés si la guerre civile éclate. Cela a été dit par Khan, rapporté par Al Jazeera mercredi. Khan a également déclaré que l'Afghanistan pourrait être utilisé comme base pour un certain nombre de groupes armés combattant le gouvernement pakistanais. Selon Khan, la crise humanitaire et la crise des réfugiés peuvent être un problème pour le Pakistan. Le gouvernement de Khan a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à s'engager avec le gouvernement intérimaire des talibans. Le Pakistan était un allié clé du gouvernement taliban lorsqu'il dirigeait l'Afghanistan en 1996 et 2001. Mais le Pakistan n'a pas reconnu le nouveau gouvernement taliban après avoir pris le contrôle de l'Afghanistan en août. Les dirigeants pakistanais affirment que toute décision sur la reconnaissance nécessite un consensus régional. Depuis octobre, les enfants indiens peuvent se faire vacciner contre la COVID-19. Tous les enfants âgés de 12 ans et plus en Inde pourront recevoir le vaccin COVID-19 à partir d'octobre prochain, lorsque le fabricant de médicaments Cadila Healthcare lancera son vaccin appelé ZyCoV-D. Cela a été révélé par deux sources ayant une connaissance directe du plan à Reuters mercredi. Le premier vaccin COVID-19 basé sur l'ADN au monde, le ZyCoV-D, a reçu un permis d'utilisation d'urgence des régulateurs indiens le mois dernier. À partir d'octobre, la société mieux connue sous le nom de Zydus Cadila produira 10 millions de doses de vaccins chaque mois. Pendant ce temps, les deux sources ont requis l'anonymat car elles n'ont pas le pouvoir de parler aux médias. Le ZyCoV-D est le seul vaccin approuvé pour les enfants en Inde. Au total, 825,9 millions de doses du vaccin ont été administrées à des adultes dont la population s'élève à près de 1,4 milliard de personnes. Le président iranien s'adresse à l'ONU et appelle à des sanctions pour la révocation nucléaire. Le nouveau président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies dans son discours. Il a déclaré que les discussions sur le nucléaire devraient permettre de libérer des sanctions pour son pays. Rapporté par l'AFP, mercredi 21 septembre 2021, le président Raisi a demandé aux États-Unis de tenir leur promesse de mettre fin aux sanctions dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Selon Raisi, le nucléaire est interdit par la religion. Il a également déclaré que l'Iran ne développerait pas d'armée nucléaire. Pendant ce temps, le président américain Joe Biden, qui était présent au discours de Raisi, a déclaré que les États-Unis étaient prêts à revenir à l'accord nucléaire initié par son prédécesseur, le président Donald Trump. Le président des États-Unis, Joe Biden, a parlé de l'indépendance de la Palestine lors du forum de l'Assemblée générale des Nations unies, ONU. Biden insiste sur le fait qu'un État palestinien souverain et démocratique est le meilleur moyen d'assurer l'avenir d'Israël. Rapporté par Arab News et l'AFP, mercredi 22 septembre 2021, Biden a fait cette déclaration à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis, mardi 21 septembre, heure locale. Joe Biden a souligné que tous doivent lutter pour un avenir meilleur pour la paix et la sécurité pour tous les peuples du Moyen-Orient. Duterte s'engage à être responsable des opérations antidrogues. Le président philippin Rodrigo Duterte s'est engagé mercredi à tenir les opérations antidrogues pour responsables s'il s'avère qu'elles ont outrepassé leurs limites. S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies, Duterte a déclaré qu'il avait ordonné à ses subordonnés de revoir la guerre antinarcotique de son administration. Il a chargé le ministère de la Justice DOJ et la Police nationale philippine PNP de revoir la conduite des opérations contre les drogues illégales. Ceux qui ont agi de manière inappropriée pendant l'opération doivent être tenus responsables devant la loi. Duterte a assuré aux Nations unies que la détermination de son gouvernement est de protéger le peuple philippin des dangers des drogues illégales dans les limites de la loi. Duterte a également déclaré que les Philippines et les Nations unies ont récemment signé un programme de 3 ans pour les droits de l'homme en tant que modèle d'engagement constructif. Entre les deux parties, pendant ce temps, la semaine dernière, la Cour pénale internationale CPI a approuvé une enquête officielle sur les violations présumées des droits humains de Duterte dans sa guerre contre la drogue. Le président tchèque Miloš Zeman revient de l'hôpital. Le président tchèque Miloš Zeman est rentré de l'hôpital mercredi après avoir été soigné pendant 8 jours. Un porte-parole de l'hôpital militaire central, dans un message à Reuters, a déclaré que Zeman était rentré Chez lui, vers 11h, heure locale, il n'a donné aucune autre explication et n'a pas répondu aux questions sur l'état ou le traitement effectué par le président. Pendant ce temps, un porte-parole de Zeman n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le bureau du président a déclaré la semaine dernière que le président avait subi un examen médical complet dans un hôpital militaire de Prague et une équipe de médecins a déclaré que Zeman était déshydraté et un peu fatigué. Le dirigeant de 76 ans a effectué presque toutes les tâches officielles, utilisant un fauteuil roulant depuis plusieurs mois, car il souffre d'une neuropathie qui affecte ses jambes. L'hôpital a déclaré que le niveau de diabète au-dessus du seuil que Zeman avait eu il y a plusieurs années n'avait pas été détecté. Cependant, le problème de la neuropathie persiste. BPO-LBF prépare des logements standards CHSE pour soutenir le G20. L'agence de mise en œuvre de l'autorité de Labuan Bajo Flores, BPO-LBF, a préparé des hébergements aux normes internationales et d'autres hébergements certifiés pour la propreté, la santé, la sécurité et la durabilité de l'environnement CHSE. Pour soutenir la mise en œuvre du sommet du G20 2022 à Labuan Bajo, Manggarai occidental, Nusa Tenggara de l'Est. À ce jour, Labuan Bajo compte 6 hôtels et 46 acteurs commerciaux certifiés CHSE. C'est ce qu'a déclaré la présidente directrice de BPO-LBF, Sana Fatina, dans un communiqué reçu par Antara Labuan Bajo mercredi. Sur la base des données du BPO-LBF, Labuan Bajo compte 11 hôtels 3 à 5 étoiles d'une capacité totale de 848 chambres. Le nombre devrait passer à 1500 chambres en 2020. En outre, pas moins de 261 voyagistes agents de tourisme de 5 associations de navires légalement enregistrés sont également intégrés dans un système d'enregistrement en ligne. BPO-LBF continuera également à mettre en œuvre de manière agressive le CHSE dans les bureaux, les institutions gouvernementales et l'industrie du tourisme qui serviront principalement les invités. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Bonsoir, voici le commentaire ayant pour le titre La protection pour les personnes âgées. Le nombre de la population d'âge productif en Indonésie est actuellement plus que la population âgée et les enfants. Cependant, la population indonésienne va vieillir ou le nombre de la population en âge de produire diminuera de l'an 2035 à l'an 2040. Et le nombre de groupes de personnes âgées augmentera. Les données du Bureau central des statistiques montrent que le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus augmentera de 25% ou 80 millions en 2050 contre 25 millions de personnes en 2019. Si le bien-être, la santé et l'existence sociale des personnes âgées ne sont pas pris en compte aussi bien que possible, alors le groupe des personnes âgées deviendra un fardeau pour le groupe d'âge productif à la fois au niveau de la famille et au niveau de l'État. Le gouvernement indonésien continue d'accroître son attention afin que le groupe des personnes âgées ne devienne pas un fardeau pour la société en les gardant en bonne santé, heureuse et en même temps productif selon leurs capacités. Une forme d'attention du gouvernement aux personnes âgées est la signature d'un règlement présidentiel numéro 88-2021 sur la stratégie nationale de durabilité de l'âge par le président Joko Widodo. Le directeur de la réduction de la pauvreté et du bien-être du ministère de la planification du développement national, PPN, ou Agence nationale de planification du développement, BAPENAS, Maliki, lors de la conférence nationale sur la protection des personnes âgées, qui était suivie en ligne à Jakarta mercredi, cité par Antara, a déclaré que la stratégie nationale comprend 5 piliers principaux, dont le premier est lié à la protection sociale, à la sécurité des revenus et à la capacité individuelle. Le second concerne l'état de santé et la qualité des personnes âgées. Troisièmement, le développement d'un environnement convivial pour les personnes âgées. Quatrièmement, le renforcement des institutions pour la mise en œuvre des programmes de durabilité de l'âge. Et cinquièmement, le respect de la protection des droits des personnes âgées. Maliki a également déclaré que cette stratégie est la première étape pour amener le gouvernement à faire en sorte que le groupe des personnes âgées soit indépendant, prospère et digne. La stratégie nationale pour les personnes âgées est en effet très urgente. Avec la signature du règlement présidentiel sur cette stratégie nationale pour les personnes âgées, la préparation de la question des personnes âgées peut être réalisée plus tôt. En outre, toutes les parties peuvent désormais déployer des efforts intensifs pour optimiser la productivité de la population âgée, en particulier face au prochain bonus démographique, afin que le groupe des personnes âgées indonésiennes puisse vivre de manière indépendante, saine et prospère. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 septembre 1932. Le royaume d'Arabie Saoudite a été créé. Le chef du royaume de Hejaz et du royaume du Najd, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saoud, a uni les deux royaumes qu'il a divisés en un seul royaume. Le royaume a ensuite été nommé royaume d'Arabie Saoudite. L'unification des deux royaumes en un seul royaume d'Arabie Saoudite a été annoncée par le roi Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saoud le 23 septembre 1932. L'autre information est sur une bombe a explosé dans le groupe R-771 le 23 septembre 1983. Le vol 771 de groupe R volant la ville de Karachi au Pakistan à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis s'est écrasé dans le désert à 40 km d'Abu Dhabi le 23 septembre 1983. Les 107 passagers et 5 membres d'équipage à bord ont été tués. Certains des morts étaient des ressortissants pakistanais qui voulaient rentrer à Abu Dhabi et à Bahreïn après les vacances de l'Aïd al-Adha à leur ville natale. Basé sur les résultats d'une enquête de l'Agence nationale américaine de sécurité des transports sur une boîte noire publiée en 1947, un Boeing 737 de P6 a explosé car la bombe à retardement placée dans le coffre. Chers auditeurs, on termine l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 septembre, la Journée nationale de la marine. Par le décret numéro 249 en 1964, le président Sukarno a décidé que le 23 septembre serait une journée maritime. Cependant, ce n'est que le 23 septembre 1968 que la Journée nationale de la mer a été commémorée pour la première fois, lorsque l'Indonésie était dirigée par le deuxième président Suharto. Lors de la commémoration qui est tenue à Manado, dans le nord de Sulawesi, le président Suharto a souhaité que cette commémoration puisse être utilisée comme un élan pour préserver et augmenter le potentiel maritime dans toute l'Indonésie. C'est parce que l'Indonésie est un paysage océanique qui couvre plus de 70% du territoire total de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Jangan aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap. Tapi jika ada kemungkinannya, aku mau. Yeah. Oh.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir, voici Mon Indonésie et en pour le titre... KLHK prépare une solution permanente pour la gestion des incendies de forêt. Le directeur de lutte contre les incendies de forêt et de terre au ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, Bashar Manulang, a déclaré que KLHK avait catégorisé trois principaux groupes de solutions permanentes aux incendies de forêt et de terre en Indonésie. Il a dit cela comme rapporté par Antara à Jakarta mardi. Le trois principaux clusters, à savoir le contrôle opérationnel dans le système du groupe de travail de patrouille intégrée au niveau régional, est renforcé par la communauté de préoccupation contre les incendies de parajuristes. Le deuxième cluster, les efforts pour contrôler les incendies de forêt et de terre basés sur l'analyse du climat et l'ingénierie des jours de pluie grâce à la technologie de modification du temps TMC. Le troisième cluster, favorisant la gouvernance des paysages, notamment dans le respect des acteurs ou des concessions, des pratiques agricoles et de la gestion des tourbières. En outre, le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, renforce sa coopération avec d'autres ministères et institutions telles que l'Agence nationale de gestion des catastrophes, l'Agence météorologique, climatologique et géophysique, l'Armée nationale indonésienne, la police indonésienne et l'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie. La collaboration vise à formuler des mesures pour surmonter les incendies de forêt et améliorer le système de détection précoce et de surveillance des points chauds. Selon les données du système de surveillance des incendies de forêt, SIPONGI de KLHK, la superficie des incendies de forêt et de terre en Indonésie elle-même a diminué au cours des deux dernières années. En 2021, il y a environ 160 000 hectares de terre brûlée. Les mêmes données montrent qu'en 2020, près de 300 000 hectares de terre ont été brûlés et en 2019, environ 1,6 million d'hectares de terre ont été brûlés. Bashar Manulang a souligné que les incendies de forêt et de terre en 2015 étaient devenus une leçon précieuse pour l'Indonésie et le gouvernement pour changer le paradigme de leur gestion, à savoir donner la priorité aux efforts de prévention. Une synergie est réalisée entre les institutions avec des parties prenantes privées et implique la participation communautaire et s'accompagne de la présence d'agents sur le terrain pour effectuer des patrouilles préventives. Il a dit que l'analyse du climat a été effectuée tout au long de l'année afin de déterminer les bonnes étapes dans la gestion des incendies de forêt et de terre. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous introduisons la cuisine typique de Madiun, Sego Jotos. Chers auditeurs, si vous voyagez dans la ville de Madiun, dans l'est de Java, essayez de goûter une variété de plats délicieux. Le plus célèbre est Pecel Madiun, qui est fabriqué à partir d'une variété de légumes bouillis, y compris les haricots longs, les fleurs de tori, les pousses, le canikir, les épinards et les feuilles de manioc et feuilles de papaye, qui sont arrosées à une sauce aux arachides. L'attrait de ce pecel réside dans sa sauce épicée aux arachides. Autre pecel Madiun, il existe également une autre spécialité culinaire, à savoir Sego Jotos ou en français, signifie riz jotos que vous devez essayer. En javanais, jotos signifie coup de poing ou poing. Le nom Sego Jotos lui-même vient de la taille du riz qui est la taille du poing d'un nado. Sego Jotos contient du riz blanc ainsi que des plats supplémentaires tels que du tempeh, du tofu, des œufs et des nouilles ou des vermicelles. Le riz blanc est généralement enveloppé dans des feuilles de bananier. En tant que menu supplémentaire, il y a généralement des vendeurs qui proposent d'autres plats d'accompagnement tels que bakwan, sate aux œufs et pindang des abats. Ce qui rend ce Sego Jotos spécial, c'est le sambal ou sauce chili. Le sambal est épicé et délicieux, parfait pour manger avec du riz chaud et une variété d'autres plats. Sego Jotos est généralement vendu dans les états de l'après-midi jusqu'au soir. Cet aliment est généralement vendu avec une variété d'autres boissons chaudes. À Madiun, Sego Jotos est largement vendu dans les stands de nourriture en bordure de route avec des prix relativement bon marché, à partir de seulement 5000 rupiah. Sego Jotos est devenu un menu quotidien pour les habitants de Madiun et est souvent servi lors d'événements importants. Si vous souhaitez profiter de Sego Jotos, veuillez visiter la ville de Madiun en appliquant les protocoles de santé en raison de la pandémie de COVID-19. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Benarkah rasa tak terlalu
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée CityLink remporte le prix de la compagnie aérienne Abapri du service de santé 5 étoiles au monde. La compagnie aérienne indonésienne CityLink a remporté le prix de la compagnie aérienne Abapri du service de santé 5 étoiles au monde de Skytrax. Cette réalisation place la compagnie aérienne comme le deuxième transporteur à bas prix au monde après Singapore Airlines Group. Dans son communiqué officiel mercredi 22 septembre, Skytrax, qui est une agence de notation aéronautique mondiale indépendante basée au Royaume-Uni, a classé CityLink parmi les 15 compagnies aériennes au monde qui ont réussi à obtenir ce titre. 5 étoiles Skytrax au classement de sécurité par rapport au COVID-19 des compagnies aériennes est la note la plus élevée attribuée aux compagnies aériennes pour la mise en œuvre des meilleurs protocoles de santé dans le service de vol au milieu d'une situation de pandémie. L'obtention de ce titre est basée sur un processus d'audit réalisé par Skytrax en août 2021. L'évaluation porte sur tous les aspects de la mise en œuvre des protocoles de santé, notamment pour fournir le meilleur service pendant la pandémie de COVID-19, y comprend pré-vol et post-vol. Selon le président directeur de CityLink, Juliandra, ce prédicat est une reconnaissance mondiale de la qualité de la mise en œuvre de bons protocoles sanitaires pour les vols CityLink, notamment pendant la pandémie de COVID-19. Depuis le début, CityLink s'est engagé à mettre en œuvre de bons protocoles sanitaires et à développer des services dans toutes les phases de ses vols. CityLink souhaite créer des vols sûrs et confortables pour tous ses clients, conformément à sa mission de devenir la compagnie aérienne la plus simple. Le PDG de Skytrax, Edward Plate, a exprimé son plaisir de décerner à CityLink 5 étoiles Skytrax au classement de sécurité par rapport au COVID-19 des compagnies aériennes, compte tenu de tous les efforts déployés par CityLink pour fournir les normes de propriété les plus élevées à ses passagers. La direction et les employés de CityLink sont allés au-delà des normes de l'industrie pour atténuer le risque de transmission de la COVID-19 afin de restaurer la confiance des passagers. L'audit Skytrax a été réalisé pour s'assurer que CityLink disposait de procédures ou de procédures perfectionnées en incorporant des procédures de santé standard liées au COVID-19. L'application des procédures à la fois dans les phases pré-vol et post-vol. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Thank you. Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku. Oh cintaku, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya? Bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu.
Duhai sayang, tiada cinta seindah cinta, cinta yang tulus yang mengajarkan bijaksana dalam memaknai hati ini.
Oh biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi. Semoga kamu memaafkanku, menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Quiz International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz International de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.it. Bonne chance!
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Chris Dayanti. Sur Jonathan, Chris Dayanti ou KD avait remporté en 1992 l'événement international Asian Bagus qui a fait connaître son nom. Ce n'est pas qu'en 1995 que KD sort son premier album intitulé Tercera. Cet album est plutôt réussi. Après cela, il a réédité un album en 1998 intitulé Cassie. Dans cet album, KD est également devenue productrice de disques pour la première fois. L'un des singles à succès de cet album est la chanson Menghitung Hari. Cette chanson a été composée par Melly Guslow, une auteure, compositrice et chanteuse indonésienne. Menghitung Hari raconte l'histoire d'une femme qui espère que son histoire d'amour se terminera s'il n'y a pas de sincérité de la part de l'homme. Bon, chers auditeurs, voici Chris Dayanti va chanter une chanson intitulée Menghitung Hari. Bonne écoute.
Menghitung Hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada jelang cerita. Kisah yang panjang menghitung hari, padamkan saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada yang aku minta tulus hati.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.